never, ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything.
Let's make a revolution of desire.
But this time, we will do it by ourselves.
Nous ne sommes pas sans passé. Nous avons un passé.
If not me, who?
C'est représentant.
Les mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas.
If not now.
Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley.
When?
Représente
Festival féministe en Angoulême du 22 au 26 août 2023.
If not now.
Sur Zay Zay.
When?
Mathilda Gesson et Anthony Costant-Zanon sont toutes les deux issues du milieu du cinéma. Elles se sont d'ailleurs connues sur le tournage du film de Wes Anderson, The French Dispatch, en 2020 à Angoulême. Mais il y a quelques mois, elles ont décidé d'amorcer un pas de côté par rapport à leur milieu professionnel, en co-créant l'atelier Marcel, un atelier destiné à former des référents contre les violences sexistes et sexuelles sur les plateaux de tournage notamment, et dans le milieu culturel plus largement. On est allé les interviewer chez Mathilda, à Champigny, au sud d'Angoulême en Charente, pour comprendre avec elle où en est le milieu du cinéma 7 ans après MeToo et quelques mois après que la comédienne Adèle Haenel a décidé d'en claquer la porte.
Oui, bonjour. Anthony, donc je suis co-dirigeante de l'Atelier Marcel depuis quelques mois. Et sinon, mes dernières années, j'ai été intermittente du spectacle. Donc ça fait 15 ans entre mes études et ensuite mon métier que je côtoie le cinéma, l'audiovisuel en général, avec différents métiers, différents postes.
Et bonjour, Mathilda Gesson, co-dirigeante aussi de l'Atelier Marcel et régisseuse dans le cinéma, l'audiovisuel. À peu près depuis 15 ans aussi, et je suis passée par pas mal de métiers, et j'ai fini dans la régie, régisseuse adjointe, sur les tournages, voilà.
Est-ce que vous pouvez, pour démarrer, nous expliquer ce qu'est l'atelier Marcel, et peut-être d'abord pourquoi ce nom ? Marcel au féminin.
Oui, Marcel de Zelleux. Alors l'atelier Marcel, c'est une structure de conseil et de formation et de sensibilisation sur les sujets des violences morales, sexistes et sexuelles. Et nous, dans le cadre du travail, dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel.
Oui, exactement. Dans notre milieu d'expertise pour commencer, et puis après dans la culture en général, on aimerait toucher les autres. Toutes les autres professions, que ce soit spectacle vivant, le théâtre, la musique, on aimerait vraiment toucher tous les milieux, un petit peu de la précarité, entre guillemets. Et l'atelier Marcel, on l'a trouvé parce qu'il y a un petit jeu de mots avec le harcèlement, voilà. Me harcèle, Marcel. Et on aimait beaucoup le fait que Marcel soit un prénom féminin et masculin. Et on a choisi évidemment le féminin parce que nous sommes toutes les deux des femmes.
Et donc lors de... Ah pardon, allez-y Anthony.
On a rajouté atelier parce qu'on aimait bien ce mot, parce que ça regroupe vraiment pour nous cet espace de dialogue, d'échange, de construction à plusieurs, voilà, pour l'atelier.
Qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers concrètement ?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On fait beaucoup de théories, évidemment, parce que les notions des violences sont d'abord des notions strictement légales dans les textes de loi, code du travail et code pénal. Donc, on essaie d'être le plus clair possible par rapport aux élèves. Et autour de ça, on propose quand même, vu que le sujet est quand même assez sensible, on propose beaucoup de jeux, de quiz... pour se rendre compte un petit peu de la réalité des violences avec beaucoup de chiffres et d'études de cas, des mises en situation aussi et puis des ateliers de réflexion beaucoup parce que notamment le poste de référent donc qui est une de nos premières formations qu'on propose, le poste de référent harcèlement qui est donc placé en ce moment sur les tournages depuis 2 ans, on en place de plus en plus mais ils sont pas actuellement tous formés, loin de là.
C'est une obligation ?
C'est pas une obligation légale. Non, c'est pas une obligation légale dans le cadre de l'audiovisuel du cinéma, puisque c'en est une pour des entreprises de 11 salariés, dans le cas d'un CSE, qui ont un CSE, et aussi qui ont 250 salariés à l'année, en fixe. Le problème de l'intermittence, c'est qu'on rentre dans aucune case. Donc on a beau être 200, 300, 400 sur des tournages, on ne rentre pas dans les cases d'obligation légale de mettre en place des référents. Ça se fait politiquement, parce que c'est sympa et que, voilà, qu'on met en place des référents, mais ils ne sont pas formés actuellement. Donc on met en place cette formation référent, et donc on propose des ateliers pour justement essayer de proposer une mission dans le respect aussi des personnes qui vont choisir d'être référents, donc dans la réalité de leur fonction et du temps qu'ils ont sur les tournages, chose qui n'est vraiment pas évident à mettre en place sur un tournage avec le temps qu'on a, enfin le peu de temps qu'on a.
Anthony, quel est le rôle d'un référent sur un tournage ?
Alors le rôle des référents, ce sera de prévenir, d'informer et éventuellement aussi d'accueillir la parole sur un tournage. Encore une fois, c'est pour ça que ça mérite vraiment une vraie formation, parce que ça peut être très délicat. Mais en tout cas, voilà, la première chose, c'est de retranscrire un peu ses connaissances, hein, donc sur les violences. Qu'est-ce qu'une violence ? Comment on la reconnaît ? Et qu'est-ce qu'on fait si on est victime ou témoin ? Voilà. Donc voilà, ça c'est le rôle du référent. Et nous, on insiste toujours aussi sur le fait qu'un référent n'est pas l'employeur, n'est pas l'employeuse. Voilà. Donc toujours, il y a les fonctions du référent, mais aussi ses limites, sur lesquelles on aime bien aussi vraiment préciser les limites aussi du référent.
Est-ce que tout le monde peut être référent sur un tournage ou parce que là on parle du milieu du cinéma, mais en fait vous vous adressez au milieu de la culture au sens large, de la culture où il y a de la précarité en plus, vous parlez, c'est-à-dire celle qui n'a pas ces cadres là dans lesquels peut s'inscrire l'obligation légale d'un référent. Donc qui peut le devenir? C'est sur la base du volontariat? Comment ça se passe?
Oui, c'est la base du volontariat.
C'est ça. C'est entièrement sur la base du volontariat, voire même ils sont désignés. Certains nous ont raconté que sur des... Ouais, désignés volontaires. Sur certains films, on nous dit « Alors, je me suis vu inscrit sur la feuille de service en référent harcèlement. On m'en a jamais parlé. Je ne sais pas en quoi ça consiste. » Donc, c'est un peu désespérant. Aujourd'hui, c'est sur la base du volontariat. Et se pose évidemment la question sur les tournages avec toute cette strate de hiérarchie et en plus de différence de temporalité entre les préparations, qui arrive quand sur le tournage, machin. Donc il y a certains postes qui sont plus légitimes que d'autres. Pareil, c'est un sujet délicat, donc il y a des postes qui sont plus légitimes peut-être à reprendre certaines paroles un peu déplacées que d'autres personnes.
Lesquelles, par exemple? Parce que, on s'adresse à nous, on n'est pas du lander, nos auditeurs non plus. Donc, lesquelles sont sur un tournage? On imagine que ce n'est pas le réalisateur.
Alors, pas forcément. Nous, on pense vraiment à des personnes qui sont constamment, en tout cas, au contact des équipes et qui sont, tous les jours, en tout cas, avec l'équipe. Donc, ces personnes qu'on aura l'habitude de voir tous les matins à la machine à café, à la cantine, pour créer un lien. Et malheureusement, c'est vrai qu'on va dire un peu les dirigeants, les directeurs de production, directrices de production, ou les gens aussi dans les bureaux, ne sont pas forcément au contact de l'équipe. Après, ce qui est aussi compliqué, encore une fois, dans nos milieux, c'est qu'on n'est pas tous ensemble toute la journée. Donc, il y a des équipes, on pense souvent aux équipes déco, par exemple, à la décoration.
Qui sont assez isolées, oui.
Qui sont parfois seuls sur tout un tournage. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas croiser une seule fois l'équipe de tournage. Ils préparent avant, le matin, ils fignolent, et quand l'équipe de tournage arrive, ils repartent, et ainsi de suite. Donc, c'est pas facile comme question de qui placer. Nous, on se dit que dans un monde idéal, il y aurait même plusieurs référents sur des tournages. Ouais. En tout cas,
de manière assez évidente, une femme et un homme, en général, c'est ce qu'on préconise. Et deux personnes à des postes très différents qui pourraient couvrir le maximum, on va dire, de territoire, entre guillemets, et de techniciens. On pense souvent à un régisseur qui va croiser un peu plus facilement l'équipe déco. Mais encore une fois, tout ça va dépendre du projet. Il y a des projets où où l'équipe déco est dans un très grand nombre, là, ça pourrait mériter carrément un référent à ce poste-là chez eux, enfin, en double casquette en tout cas. Donc ça dépend des projets, tout dépend des projets, donc c'est vraiment du sur-mesure, et c'est aussi pour ça qu'on a trouvé nécessaire de créer l'atelier Marcel. C'est aussi vraiment en termes de conseils, comme on s'y connaît, on se fait 15 ans qu'on est sur les tournages, de vraiment accompagner les sociétés de production pour leur expliquer, enfin pour les accompagner, leur proposer un meilleur accompagnement et dire, bon ben voilà, vu votre film, là ça serait pas mal, la secrétaire de production pour commencer, ensuite quelqu'un plus sur le plateau, peut-être l'ingénieur du son ou le perchman. Donc voilà, il y a pas mal de choses sur mesure et qui sont très très différentes selon les projets, selon les budgets, selon la grosseur de l'équipe évidemment.
Est-ce qu'on sait si la présence d'un ou d'une référente sur un plateau de tournage est de nature à faire baisser le risque de discrimination, de violence ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été mesuré ou,
Alors, on n'aura aucun chiffre, étude ou sondage hein, pour répondre à cette question. Après, ce qu'on peut dire quand même, plus généralement, c'est qu'on voit que depuis quand même l'ouverture de la parole, depuis MeToo, depuis voilà, tous ces mouvements, on sent, alors je ne pourrais pas encore une fois chiffrer, mais on sent quand même une vraie différence sur les plateaux, sur les tournages.
Sur les constructions des équipes.
Sur les constructions des équipes. On voit que ça change, que ça bouge, et que oui, il y a peut-être déjà des choses qui sont un petit peu mises en place grâce à cette ouverture de parole. Voilà, oui. Après, la place des référents, je ne suis pas sûre qu'on puisse encore vraiment dire ce que ça...
Non, parce qu'encore une fois, on reste sur des référents pas assez formés. Donc même s'ils sont là et que ça peut rassurer, et d'ailleurs on a beaucoup de référents qui nous appellent un peu en détresse parce qu'ils tombent sur des affaires, des choses à gérer, et comme ils ne sont pas formés, ça, c'est très, très complexe à encadrer. Donc ils sont en place, il y a une vraie volonté des sociétés de production vraiment de faire quelque chose, mais c'est qu'à demi, quoi. Il n'y a pas encore le travail, c'est vraiment un petit pas, c'est très bien, mais il y a encore une grosse avancée à faire. Les référents aujourd'hui, ils sont là vraiment pour accueillir la parole et accompagner. Le travail qui va faire rassurer toute une équipe technique et artistique sur le sujet des violences et tout, c'est quand la société de production a mis quelque chose en place de beaucoup plus important.
Ça, c'est quelque chose que vous parliez depuis MeToo, donc depuis 2015. Ça, c'est des choses que vous voyez arriver un peu ou
Depuis deux ans, je pense, depuis deux, trois ans. Les référents, déjà, ça fait deux ans à peu près qui commence à être mis en place, vraiment, alors qu'il n'y a aucune obligation légale, normalement. Et depuis 2-3 ans, surtout avec l'essor des plateformes, dans les tournages, on voit qu'eux arrivent avec aussi un package, comme c'est souvent des plateformes qui viennent, qui sont anglophones, ils arrivent avec un package un peu plus carré sur les violences, notamment, et très strict. Donc avec une plateforme d'écoute, voilà. D'accord. Donc il y a une avancée assez... On voit qu'il y a un cadre qui est quand même mis par ces plateformes en général, mais qui reste quand même des avancées et des plateformes anglophones, encore une fois. Nous, on est là avec nos règles françaises et il y a encore voilà, deux parties de discours qui sont faites et pas encore un lien entre les deux. On trouve qu'il n'y a pas encore assez d'avancées, mais... Moi, je pense que ça va mettre encore quelques années avant qu'on se fasse le constat que...
Vous y participez.
Oui.
Et est-ce que... Alors vous, toutes les deux, cumulées, vous avez 30 ans d'expérience, à vous deux, 15 ans chacune. Et de quel... Enfin, voilà, quel constat, vous avez fait sur cette violence dans ce milieu que vous connaissez bien, où vous avez encore un pied ? Est-ce que, voilà, tel qu'on a vu Adèle Haenel récemment claquer la porte du milieu du cinéma, dénonçant une violence systémique contre les femmes, contre, en fait, toute personne voilà, ne collant pas à la case habituelle. Est-ce que vous, c'est un constat que vous partagez ? Qu'est-ce que vous avez pu constater au long de votre carrière dans ce milieu ?
Alors, c'est un constat que, oui, je partage très largement. Et ça a commencé dès mes études. Donc, dès mes 18 ans, en école de cinéma, déjà, on était très peu de femmes. Donc déjà, forcément, ça, c'est un premier facteur, on va dire, de risque et de discrimination possible. Et ce qui a été compliqué, ce qui a été très long, c'est qu'il a fallu, moi, mais je pense beaucoup de gens aussi, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que je voyais et ce que j'étais en train de vivre, de quoi j'étais témoin aussi. Donc il a fallu des années pour me rendre compte effectivement de ce problème de, bah, il y a beaucoup d'hommes sur les tournages à des postes importants, il y a moins de femmes. Moi, quand j'ai commencé en régie, j'étais très souvent la seule femme sur une équipe, des fois de 10, 15. Donc, bon, avec encore une fois tous les problèmes que ça peut comporter.
Et puis, c'est quoi en termes de problèmes? Ça allait du harcèlement aux mots déplacés, enfin voilà, pour qu'on...
Eh bien, il m'a fallu des années pour mettre des mots, jusqu'à ce que je m'intéresse vraiment au sujet il y a quelques années, que je puisse mettre des mots là-dessus. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure aussi des définitions légales qu'on apprend dans nos formations, dans nos ateliers, parce qu'à partir du moment où on connaît la définition, eh bien, on sait ce qu'on vit ou de quoi on est témoin. Et oui, c'est du harcèlement moral, c'est du harcèlement sexuel, de la discrimination. Ça, on est tous les intermittents, je pense, confrontés régulièrement. Il y a ceux qui s'en rendent compte au fur et à mesure, ceux qui ne s'en rendent pas encore compte, ceux qui ne veulent pas voir. Mais oui, c'est très, très présent. C'est très présent. Et effectivement, Adèle et Mouvement MeToo ont mis en lumière tout ça. Et c'est une très bonne chose, mais oui, c'est très présent et on a eu affaire dans notre carrière, encore une fois, à plein de choses, pour ma part en tout cas. Oui.
Mathilda ?
Alors, je comprends complètement ce que dit Anthony. En même temps, on a créé l'entreprise ensemble, donc on a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Moi, ça a été le harcèlement moral qui m'a beaucoup sauté aux yeux au fur et à mesure de ma carrière. Je pense que j'ai été très très perturbée par la manière dont étaient managées les équipes. Cette espèce de pouvoir assez important, ce pouvoir qu'avaient les chefs de poste, et cette manière un petit peu de t'apprendre le métier et à la dure, et que en fait c'était comme ça, et que moi à mon époque, et ce truc de moi à mon époque, on l'a vécu pendant 15 ans en fait, ça n'a jamais donc on a beau leur répéter qu'on est en 2021 22 23, ça sera toujours un management un petit peu particulier quand même, et très très proche, très limite, voire complètement du harcèlement moral. Et dû à ce lien tout le temps de subordination, à ces strates de hiérarchie, à ce rapport homme-femme très particulier aussi, évidemment, harcèlement moral n'est jamais très loin d'harcèlement sexuel non plus, et cette manière d'apprendre le métier qui est quand même assez limite parfois, ouais. Voilà. Donc moi j'ai connu plutôt dans le type de harcèlement moral, témoin aussi.
Voilà. Témoin de choses difficiles, de harcèlement.
Témoin de harcèlement, et surtout dans ce... On commence jeune, on commence stagiaire, et donc du coup, c'est... On est souvent... on parle d'agisme, on est souvent soumis à cette espèce de comportement de subordination, et c'est ça qu'on voit très souvent. On accepte beaucoup de choses pour continuer, pour faire les prochains films, ça c'est sûr.
On ne naît pas femme, on le devient.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
On m'a souvent dit qu'être mère, ça donnerait un sens à ma vie. J'ai toujours pensé le contraire, mais rares sont ceux de mon avis. Je n'ai ni l'instinct ni l'envie, on me répète que ça viendra, que mon destin sera accompli quand je tiendrai la vie dans mes bras. Je les vois déjà me crucifier, tous à me montrer du doigt. Pourquoi devrais-je me justifier? Au fond, ça ne concerne que moi. Pour quelques aspects biologiques, on nous divise dès la naissance. On me dit femme en toute logique, mais le suis-je vraiment par essence? À vrai dire, ça ne change rien de naître fille ou garçon, mais la mère qui donnera le sein ne le fera pas de la même façon. Selon le sexe, c'est indéniable, y'a des variables d'éducation. Les femmes sont aussi responsables de leurs propres conditions. C'est devenu inconscient, et dans le fond, sachez bien que depuis la nuit des temps, on n'est pas femme, on le devient. Dans leur système patriarcal, j'étouffe, je me sens inférieur. Mon cœur est devenu cannibale, car tout me bouffe de l'intérieur. Pour plaire à ces messieurs, mieux vaut être belle et souriante. Si je suis chère à leurs yeux, c'est qu'ils me voient comme de la viande. J'ai comme envie de les gifler quand les hommes deviennent des hyènes, quand les mêmes mettre à me siffler comme si j'étais leur chienne. Vois-tu, mon cœur se pince, je ne serai jamais dans la norme. Hier on me voulait mince, maintenant ils me veulent des formes. Je suis réduit à mon sexe, mais j'ai la frousse de le crier. Ai-je vraiment des complexes ou est-ce qu'on me pousse à les créer? Et dans mes yeux y'a plus d'étoiles, je crois qu'on préfère sous les draps. Ouais, plutôt qu'avec un voile ou quelques poils sous les bras. Tout le système est corrompu, vue. Mais la vois-tu, j'en ai assez lassé d'être la femme rompue. Que le silence a effacé, on ne réalise pas encore. Donc on laisse, on banalise. Les yeux me percent, me paralysent. Oui, c'est mon corps qu'on sexualise. Y'a peut-être un amalgame auquel tout le monde contribue. Car avant d'être une femme, je suis un individu. Non, il n'y a rien d'ambigu. Quand je dis non, c'est non, tu captes. Alors pourquoi tu continues à vouloir franchir un cap? Expliquez-moi, ça bloque. On dit rien aux hommes torse nu. Alors pourquoi on me traite de salope dès que je suis un peu dévêtu? Blablabla, bla, oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pris parti. Tu traites les femmes de mal baisées, mais demande-toi la faute à qui? Qui fait quoi pour mes droits? Comme toi, je connais la galère. Alors à compétence égale, je réclame le même salaire. Moi, y'a plus rien qui m'étonne, mais c'est pourtant n'importe quoi. Parfois, on me dit que j'en fais des tonnes. Alors pourquoi j'en porte le poids? Pour une fois qu'on se le dise, on nous méprise à outrance. Les apparences se déguisent. Dis-moi, ressens-tu ma souffrance? Je dis pas que les hommes sont tous les mêmes. Il y a les bons et les moins pires, mais je crois que les plus cons sont ceux qui regardent sans rien dire. Balance ton quoi, balance ton porc. Oui, ça fait faire de belles chansons. Ça fait même des disques d'or, mais ça ne change pas ce que les gens sont. Alors considère-moi vraiment, sinon qui changera mon destin? Je voulais qu'on me regarde autrement. Je suis ni ta proie ni ton festin. À l'intérieur, j'ai trop de colère. Je voudrais lui dire adieu bientôt. Pourquoi dans les bouquins scolaires, y'a rien au sujet du clito? J'ai pris des coups dans la gueule et je dis pas ça par pitié. Mais je te jure que je me sens seul depuis qu'il n'y a plus trop d'amitié. On m'a battu et rabaissé. Crois-tu que je suis resté par amour? J'avais peur, j'étais blessé. Et l'injustice court toujours. Quelques larmes sous mes fossiles. Ma liberté n'est qu'une parcelle. On me préfère bientôt si je ne suis pas né pour qu'on marcelle. Ne comprendra qu'il a vécu. J'ai l'impression que nous rampons. En fait, faudrait que la sécu pense à rembourser les tampons. Dis-moi qui peut changer la donne. Pas sûr que ce soit ce texte. Mais dis-toi qu'il y a des hommes qui luttent pour le deuxième sexe. Dis-moi qui peut changer la donne. Pas sûr que ce soit ce texte. Mais dis-toi qu'il y a des hommes qui luttent pour le deuxième sexe.
Pourquoi j'ai choisi Euphonique? Alors, Euphonique, deuxième sexe, alors j'ai choisi parce que c'est une chanson mais complètement féministe, mais chantée par un homme. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel parce que ça continue un petit peu notre combat, en tout cas, l'atelier Marcel. Parce qu'on aime vraiment énormément l'idée que hommes et femmes, même combat, même si les violences, évidemment, dans le pourcentage, sont plus subies par des femmes aujourd'hui et toutes les minorités. Mais que les hommes sont aussi beaucoup privés de parler de par cette société. Et donc un homme qui parle au nom des femmes et qui chante une chanson qui s'appelle Deuxième Sexe, je trouvais ça très très bien. Voilà.
Nous sommes toujours avec Mathilda Gesson et Anthony Constant-Zanon, les deux co-créatrices de l'atelier Marcel, qui lutte contre les discriminations et les violences, notamment dans le milieu du cinéma. On a terminé cette première partie de la conversation en parlant de ce qu'on pouvait, ce que l'on devait accepter. Peut-être que c'est l'occasion aussi de parler d'une chose qu'il y a dans ces milieux culturels et notamment dans le milieu du cinéma, c'est la précarité qui y règne, notamment pour les intermittentes du spectacle. Je pense que c'est quand même quelque chose que tout le monde connaît. Et est-ce que cette précarité du milieu est selon vous justement de nature à faire que c'est un milieu où les gens acceptent des choses qu'ils n'accepteraient pas ailleurs pour pouvoir continuer à travailler?
Alors oui, totalement, totalement. Juste du coup, pour faire une petite précision, c'est pour les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas si tout le monde connaît les intermittents du spectacle, mais pour être intermittent du spectacle, il faut faire sur 12 mois 507 heures. Dit comme ça, si on calcule à l'année, on peut se rendre compte, on peut se dire, c'est très simple de faire 507 heures de travail sur une année. Mais non, parce qu'il faut imaginer, surtout quand on débute, qu'à la fin de chaque contrat, on recherche un nouveau contrat, une nouvelle production, donc un nouveau projet, un nouveau tournage. Donc après quelques années, quand on a nos habitudes, nos chefs, ça roule. Mais il y a souvent des années de galère avant de pouvoir en vivre, et encore des années avant d'en vivre, on va dire, un peu plus confortablement. Donc oui, il y a une grande précarité, je pense. Et évidemment, ça amène à des dérives, à une parole qui n'est pas du tout écoutée, enfin une non-parole d'ailleurs, les gens ne prennent pas la parole. On osera au début, en tout cas quand on débute, quand on est jeune et qu'on a besoin de travailler, on ne va absolument pas tenir tête à notre chef, on ne va pas répondre. On va accepter des semaines à 80 heures, on a peut-être fait même plus, il y a même plus. On va travailler 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, des fois pendant des semaines, dormir 3 heures par nuit. Et ça, c'est déjà très grave, hein. C'est pas le code du travail, c'est grave, ça amène plein de dérives. On précise qu'évidemment, la plupart des heures supplémentaires ne sont pas payées, donc c'est grave. Et, mais c'est entre guillemets, quand on arrive dans le cinéma, on nous dit c'est un peu c'est le prix à payer si tu veux continuer dans ce milieu, si tu veux un nouveau poste, si tu veux faire le prochain tournage. Donc c'est clairement dit et c'est en fait tout à fait normal. Enfin, on remet pas vraiment ça en question quand on commence. Et puis vu que ça choque personne, et on se dit c'est comme ça, on y va. On continue, on n'a pas le choix. Donc évidemment, ça donne beaucoup de pouvoir aux décisionnaires, les chefs de poste, encore une fois. Parce que très souvent, quand un tournage ou une production commence, les chefs de poste sont appelés par un directeur ou une directrice de production. Ces chefs de poste font leurs équipes. Quand un projet s'est bien passé et que ça roule, habituellement, ce ou cette chef de poste reprend son équipe. Donc il ne faut pas faire de vagues, il faut très bien travailler, il faut à peu près tout accepter, oui.
Je dirais pas mieux, elle a tout dit. On a vraiment crainte de la représaille dans ce milieu. Et on parle du milieu de l'audiovisuel et du cinéma, mais encore une fois, là, je pense que c'est le cas de tous les milieux de la culture. Et beaucoup d'autres milieux, en fait. Sauf que nous, on est un porte-voix. Et c'est pour ça qu'on nous entend principalement ces dernières années en parlant de MeToo ou d'Adèle à Hanel. Et cette représaille, elle est donc avec ce lien de chef de poste, mais c'est vrai qu'il y a dans la précarité aussi le fait que ces milieux sont complètement sous pression. Il y a quand même des budgets de plus en plus courts sur les sociétés, sur les productions. L'émergence des plateformes est un bien, pourquoi pas, mais aussi un mal, parce que ça fait aussi...
les plateformes, c'est
les plateformes type Netflix, Amazon, Netflix, Apple TV, Disney+. Exactement. Pour le moment, il n'y a que ça, d'ailleurs, pour le moment.
Il y avait Salto.
Et ces plateformes font que il y a beaucoup, beaucoup de productions et les productions sont de plus en plus courtes. Les temps de préparation de plus en plus courts également. Donc, en fait, l'humain n'est plus prioritaire sur ce genre de projet. Je parle des plateformes, mais je parle aussi maintenant des films ou des séries de chaînes. Hein. Enfin, ça, c'est pas une exception de la plateforme. Mais en tout cas, les temps de préparation sont de plus en plus courts, les temps de tournage aussi. Donc, ça court. Et quand on court, on prend pas le temps de bien se parler. On prend pas bien le temps de bien expliquer les choses. Donc, souvent, les consignes sont très mal dites ou très peu dites. Donc, on doit même des fois deviner ce qu'il faut faire. Et donc, ça fait un milieu très, très malsain. Et on peut comprendre, en fait, tout humain peut comprendre que quand on est sous pression et quand on court, on n'a pas le temps de prendre le temps de bien se parler, de se dire les choses calmement et d'expliquer pourquoi mon ton, il a été très fort. Donc, finalement, nous, on a eu aussi très, très envie de juste rappeler les règles de base. Enfin, c'est quand même dingue à dire, hein, mais c'est oui, de faire une formation pour dire tout simplement, ou des sensibilisations, juste, la différence entre la séduction et le harcèlement sexuel, il n'y a qu'un pas, mais c'est ça. La différence entre l'humour et la discrimination, le racisme, c'est ça. Et je pense que des fois, il faut rappeler les règles aux gens. Régulièrement, comme nous, on a peut-être dû se rappeler, tout le temps se remettre en question et remettre en question tout son entourage et que chacun réfléchisse bien aujourd'hui et prenne le temps. Parce que finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps de se poser les bonnes questions.
Et vous êtes une entreprise toute jeune, mais vous avez déjà fait un atelier, une session de formation. Là, vous en avez plusieurs autres à venir. Lors de ces sessions, c'est d'abord ça que vous voyez comme besoin, celui de redéfinir les choses, de rappeler les règles. Est-ce que vous trouvez que les gens en face, en fait, ne les connaissaient pas ou c'est qu'ils n'avaient pas pris le temps? Oui, je vous vois opiner du chef Mathilda, allez-y.
Non, mais c'est ça qui est assez impressionnant et c'est assez, assez magique. La dernière fois qu'on a fait notre premier atelier, c'était dans un module de formation de directeur de production. Donc, c'était quatre personnes qui étaient destinées à se former pour être directeur de production, qui est quand même donc un des postes d'employeur. C'était assez passionnant parce qu'ils étaient tous super. Mais ils se sont arrivés à la formation, donc comme c'était un module en plus dans une formation dans une formation, ils ne savaient pas ce qu'on allait faire pendant 2 jours. Ils ne comprenaient pas pourquoi 2 jours sur les violences. Et ils ont été...
C'était beaucoup trop
et que c'était... ils en savaient déjà beaucoup parce que c'était des humains. Et donc, il n'y avait pas besoin d'avoir 2 jours sur toutes ces questions. Et ils ont été très, très surpris. Et ils ont été très surpris parce que, bon, bah, peut-être qu'ils avaient vu les définitions, mais pas tant... voilà, pas, en tout cas, on ne leur avait pas vraiment expliqué comme nous, on peut leur expliquer. Et ils n'avaient pas vraiment vu d'exemple non plus. Ils n'avaient pas vu les limites de chaque violence. Et en fait, non, il y a un truc assez, assez épatant qui se passe avec les gens qui sont en face de nous, en général, où ils sont assez hallucinés de savoir tout ça. Et donc, quand on a aussi des employeurs en face de nous, enfin des futurs employeurs, et qu'ils entendent toutes les obligations légales du code du travail, et que depuis 15 ans, 20 ans qu'ils travaillent, ils n'ont jamais vu aucun affichage qui sont dans la loi obligatoire, dans le cas à être affiché, ou à être, en tout cas, à être affiché pour ses employeurs, ses employés, ça, c'est assez impressionnant. C'est vrai que nous, on peut en témoigner, vous pouvez probablement aussi en témoigner, dans nos bureaux, sur les tournages encore moins, évidemment, on ne voit jamais les affichages obligatoires concernant la discrimination, le harcèlement, voilà. Et ça, c'est dans la loi depuis quelques années.
Et pour en revenir justement aussi à ces quatre personnes qu'on a formées dans l'atelier, ce qui a été flagrant mais qui ne nous a pas du tout étonnés au final, Mathilda et moi, c'est qu'au fur et à mesure des deux jours, ils se sont tous rendus compte qu'ils avaient déjà été témoins et ou victimes, sans le savoir à l'époque. Et ça, nous, on s'en est rendu compte, bah, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, que notre carrière, on a été témoins et ou victimes sans le savoir à l'époque, puisqu'on n'avait pas les définitions, on ne savait pas. Et là, ces quatre personnes se sont rendues compte qu'ils ont été victimes ou témoins, et qu'à l'époque, ils n'ont pas du tout réagi en tant que témoins. Ils ont été assez durs avec eux-mêmes, d'ailleurs, parce qu'ils s'en sont beaucoup voulu. On est là pour rappeler aussi qu'il ne faut pas s'en vouloir, parce que quand on n'a pas les bases, qu'on n'a pas l'expérience, on ne peut rien faire. Mais en tout cas, là, maintenant, ils étaient prêts, je pense, à réagir pour eux et pour d'autres victimes éventuellement. Mais voilà, c'est ça, c'est ce qui est assez fou, c'est de se rendre compte qu'on subit, on voit, sans le savoir.
Voilà. Oui, parce que tout est très banalisé, normalisé, et ça, c'est... Voilà, on parle de sexisme ordinaire, culture du viol. Enfin, y a quelque chose, de toute façon, qui est très, très ancré dans notre société, dans le collectif. Et quand on remet ça devant les yeux de quelqu'un et en relisant, mais pas avec bienveillance. Nous, notre formation, notre atelier, c'est vraiment... c'est pas on met tous les mecs au pilori et c'est vraiment pas le but. C'est vraiment justement que tout... Il y avait une prise de conscience générale, qu'on se relise tout ensemble. Et comme ça, on peut aussi leur donner les armes pour agir quand ils sont, comme tu disais, témoins ou victimes. Et c'est super bien ce que tu as dit, ouais, dans l'atelier. C'était notamment quand on avait montré l'harcélomètre. Ouais. On propose un petit outil qui est très, très parlant, qui s'appelle l'harcélomètre. Donc là, à la radio, vous n'allez pas pouvoir entendre, mais j'aimerais bien vous le montrer, c'est pas possible. Il y a des couleurs et des flèches. En fait, c'est très simple, c'est des phrases qu'on entend au quotidien et qui vont du vert au rouge, en passant par le orange. Et donc, dans les couleurs, on entend, évidemment, on voit les premières phrases, ce qui est de l'ordre d'une relation saine, ce qui commence à devenir une relation pas très saine. Donc là, il faut reprendre la personne ou en parler, en tout cas, autour de soi. Et bah, le rouge, on peut quand même complètement le deviner. La situation où il faut vraiment agir, signaler le plus vite possible et se faire accompagner. Et on a donc cette personne qui a assisté à la formation qui, en lisant toutes les phrases, s'est rendu compte à ce moment-là qu'elle avait vécu toutes les situations de cet harcélomètre. Et sans l'avoir vu, elle n'aurait pas pu mettre les mots dessus, puisque c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, et encore une fois, qui ne sont pas assez affichés... voilà, c'est encore assez, assez tabou. Donc, nous, on a envie d'en parler partout, partout, partout. Et comme ça, les gens s'en rendront compte et pourront agir et aider aussi les gens autour d'eux.
Voilà. Et encore une fois, ça en passe par la parole. La libération de la parole.
Juste, je pensais, parce que ça va être l'heure de la deuxième. Je te vois. Non, mais je pensais parce que vous dites victime ou témoin, mais est-ce qu'il y en a qui se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes agresseurs?
Ah, c'est une très bonne question.
C'est une très bonne question. On en a beaucoup parlé aussi, Mathilda et moi. Je suis pas toujours sûre alors que les gens se rendent compte. Et c'est ça, évidemment, le grand problème. C'est que la plupart des personnes ne se rendent pas compte qu'elles agressent, qu'elles harcèlent.
Et encore une fois, c'est pour ça qu'on veut apprendre, ouvrir la parole, donner les définitions pour que les gens se rendent compte au fur et à mesure de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient et de ce qu'ils disent. Comme tu disais tout à l'heure, de toujours se remettre en question, toujours réfléchir et se remettre en question, tout le monde devrait le faire.
Bah, et, complètement. Et il y a un gros pourcentage, je pense, d'agresseurs qui ne sont pas au courant, qui ne le font pas sciemment, en fait. C'est vraiment, encore une fois, complètement fondu dans un collectif et de choses beaucoup trop banalisées et normalisées. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte.
Une fois, sous couvert de blagues, sous couvert de... Mais non, voilà, c'est, comme on disait tout à l'heure, la limite à prendre... Il y a des limites, ouais, entre le harcèlement, la drague, voilà. Donc c'est à apprendre. Voilà.
Le jour où on l'a interviewée, Anthony n'avait pas encore choisi le morceau qu'elle voulait écouter. Finalement, elle nous a envoyé un mail en nous faisant part de son choix, Flawless de Beyoncé. Et voici pourquoi elle a décidé de choisir ce morceau. Voici ce qu'elle nous dit. Je voulais une artiste, car aujourd'hui encore, les femmes ont plus de mal à percer dans le milieu musical. Beyoncé est la musicienne, compositrice, chef d'entreprise, etc., la plus populaire, la plus importante et la plus influente de notre génération. Elle a réussi à devenir quatrième star la plus puissante du monde, selon Forbes, en étant une femme et en étant noire. Elle milite sans cesse pour le droit des femmes et lutte contre le racisme. Cette chanson est en featuring avec Chimamanda Ngozi Adichie, l'écrivaine et féministe nigériane. Et Anthony rajoute « Et puis, pour la petite histoire, j'ai été assistante casting et chef de file pour ce clip. »
We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. Because I am female, I am expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
You wake up, housed up, round round in it, blossom on it, this diamond, my diamond, this rock, my rock. I woke up like this, I woke up like this, we flawless. Ladies, tell them I woke up like this, I woke up like this, we flawless. Ladies, tell them say,
Atelier Marcel, vous citez quelques chiffres clés qui sont marquants, en tout cas de votre point de vue. Est-ce que vous pouvez nous les donner,
Mathilda ?
Oui, complètement. On a voulu mettre quatre chiffres pour vraiment marquer la réalité hein, des violences. En fait, c'est pas vraiment les violences une appréciation. Oui, c'est ça. C'est que c'est vraiment des chiffres et qu'en plus de ça, faut les prendre complètement. Enfin, c'est plus en général que les chiffres qu'on voit.
Ils sont sous-estimés.
Ils sont complètement sous-estimés. C'est-à-dire que entre les victimes qui ne savent pas qu'elles sont victimes, les victimes qui ne parlent pas, les victimes qui se rétractent. On est quand même sur une grosse différence de chiffres à jouer. Donc, en tout cas, les chiffres les plus parlants, voilà. Donc, celui qui nous fait le plus... c'est qu'on a interrogé les managers et on leur a demandé s'ils avaient eu le sentiment d'avoir déjà été auteur ou autrice de harcèlement en cours de leur carrière. Et donc, effectivement, un manager sur trois qui dit avoir le sentiment d'avoir déjà été auteur. Et ça, c'est assez intéressant parce que je pense que c'est la première fois qu'on pose la question aux personnes en face, aux auteurs présumés. Et donc ça, juste pour citer la petite source, hein, c'est une étude Ipsos et Cali Social qui ont présenté un baromètre du harcèlement au travail en 2022. Donc c'est quand même très récent. Et ils ont donc dans cette étude aussi, si tu veux le dire Anthony, oui. On aime beaucoup ce chiffre.
Qui est très parlant aussi. 96% des salariés ont un niveau de connaissance insuffisant, voire quasi nul, pour relever des situations de harcèlement au travail. Donc 96%, on peut dire pratiquement tout le monde. Hein. Personne ne peut en fait vraiment définir, encore une fois, les situations de harcèlement au travail. Donc évidemment ça veut qu'elles dire... peuvent perdurer, puisqu'on ne s'en rend pas compte.
Ça veut dire, si ne pas les définir, ça veut dire ne pas pouvoir les détecter et du coup ne pas aider les... Et c'est un cercle vicieux et finalement on est dans ce truc-là qui est quand même très problématique. Donc d'où aujourd'hui la formation et la volonté de sensibilisation des salariés, mais des chefs d'équipe et des employeurs, avant toute chose aussi, de tous les auteurs, enfin en tout cas nous d'un tournage audiovisuel ou cinéma, et pour cette prise de conscience générale et urgente, et ensuite la formation des référents. Mais ça on le répétera jamais assez. Mais ça devient aussi très urgent parce que très inquiétant de mettre quelqu'un en place sur un tournage qui est là pour accueillir la parole d'une victime ou d'un témoin, mais qui ne sait pas comment accueillir cette parole-là, ça peut être catastrophique pour la reconstruction d'une personne. Donc on nie complètement l'importance de ce constat-là aujourd'hui qui est le fait qu'il y a beaucoup de référents qui sont mis en place mais qui ne sont pas formés et ça les détruit eux et probablement les gens en face. Donc c'est...
Contre-productif
et très problématique pour tout le monde. Ouais.
Et pour faire le lien avec le thème du festival Représente, dans lequel on intervient pour la troisième fois cette année, sur ce thème du mérite et du talent, on a du mal du coup à imaginer comment ça émerge dans ce système-là que vous décrivez comme étant presque à son fondement violent. Comment dans un tel système on peut imaginer autre chose que ceux qui s'en sortent, ce sont ceux qui acceptent ces conditions de travail terribles dont vous parlez, ceux qui se taisent quand ils sont témoins, ceux qui éventuellement sont agresseurs. On a l'impression que c'est finalement le talent est plus en lien avec une forme d'acceptation du système qu'avec vraiment quelque chose qu'on pourrait, le feu sacré qu'on pourrait avoir. Anthony ?
C'est une très bonne question. Vous nous demandez presque de remettre en cause la société comment on va faire? C'est parti, je suis d'accord. On en revient toujours à l'ouverture de la parole, au lever des tabous. C'est-à-dire que on voit bien hein, depuis qu'on a commencé avec Mathilda que parler des violences, en fait, c'est tabou. Les gens ne savent pas ou sont gênés, ne veulent pas en parler. Donc c'est plus on en parlera, moins ce sera tabou. Et plus les gens prendront, j'espère, la parole et du coup leur place dans une société. Je l'espère. Après, comment exactement répondre à votre question, je trouve qu'elle est là assez... c'est assez dur à répondre parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais on voit quand même que les choses changent au fur et à mesure. Que oui, évidemment, il y a plein d'hommes et de femmes qui ont beaucoup de talent et qu'il faut les écouter. Et je pense qu'on prend de plus en plus en compte la parole et le talent des femmes, mais ce sera encore très long. Et alors là, la réponse de comment les aider, après l'ouverture de la parole y croire, persévérer, oser répondre, oser prendre sa place. C'est ça, en fait, c'est oser prendre sa place. Très facile à dire, hein, mais voilà. Mais, allons-y.
C'est un super conseil aussi. Enfin, parfois, c'est bien de le rappeler au niveau de l'audace, qui est aussi un thème central hein, cette année dans ce que, dans ce que proposent les organisatrices du festival, et en lien aussi peut-être avec, vous évoquiez au début de l'entretien, le fait que c'est un milieu où il y a très peu de parité. Et voilà. Alors Mathilda, je vous laisse...
Je voulais aussi en parler et rajouter sur ce que disait Anthony, c'est vraiment très bien pour prendre sa place, mais il y a aussi une vraie responsabilité des productions pour créer des équipes paritaires. À savoir que c'est très très remarqué que plus il y a des femmes à des postes de création, plus les femmes sont représentées à l'écran, et plus les femmes sont représentées à l'écran, plus les enfants, plus les adolescents, plus les jeunes adultes et les adultes vont voir des femmes à la même hauteur que les hommes, et du coup la société va changer immédiatement en fait. Donc il y a vraiment aussi une grosse responsabilité de la part des productions, des sociétés de production françaises aujourd'hui, c'est de mettre cette parité-là. Et quand il y a des postes de création plus féminins, il y a aussi du coup, des postes techniques plus féminins. Et toute l'équipe est équilibrée. Et en général, c'est probablement les tournages où on a une équipe qui est bien dans sa peau. Bizarre, hein ? Je sais pas
quand
comment...
Quand c'est équilibré,
quand il y a autant d'hommes. Alors évidemment, on peut pas empêcher des bêtes noires et des gens un peu malsains, mais ça, c'est... On va pas faire un tableau noir de ce métier, de ce milieu. Ils ont tous leur caractère. Il y a des postes, c'est vrai, de création qui sont très très compliqués, des comédiens et des comédiennes aussi. Mais il faut garder en tête que plus on équilibrera ces équipes-là, et plus on pense qu'il y aura moins de violence et que tout le monde s'en sortira très très bien.
Voilà. Allez-y, Anthony.
Et on a vu à notre petite échelle que c'est possible. Parce qu'encore une fois, je disais qu'on a pu passer quelques années quand même de notre carrière, souvent seule femme dans une équipe d'hommes. Et à partir du moment où on a commencé à monter toutes les deux, donc régisseuse adjointe, régisseuse générale, et qu'on a du coup nous-mêmes constitué nos équipes, et ben, comme par hasard, on a trouvé autant d'hommes et de femmes, et qui étaient tous très compétents. Voilà, on a réussi à faire des équipes mixtes. Voilà, donc encore une fois, quand on a envie... On y arrive. Et c'est pas compliqué, pas du tout. Voilà, il y a des hommes et des femmes plein de talents partout. Voilà.
On entend, mais on trouve pas assez de femmes.
On ne cherche pas, je pense. Ouais. Si on cherche, on trouve les talents, je pense.
Parce que souvent, c'est ce qu'on entend dire, en fait, que on cherche pas des hommes ou des femmes, on cherche des talents. Et quand on dit ça, on prend plus d'hommes. C'est bizarre. Ouais.
On n'a pas bien cherché.
Alors.
Et on parle de discrimination en général, c'est-à-dire qu'on parle aussi beaucoup d'hommes et femmes là jusqu'à maintenant, mais on verra toujours. On peut le transposer à toute minorité. Enfin, la blague, c'est de dire minorité quand la femme est représentée à 52% en France, mais on reste une minorité dans la représentation des équipes en tout cas, et on peut parler de toutes les discriminations et de toutes les autres minorités. Si elles sont plus représentées, on s'en portera mieux aussi.
Oui, parce que sur quand on voit un peu votre image, votre image de marque, dessus, il y a aussi des personnes racisées, des personnes en situation de handicap. Je pense qu'effectivement, ce que vivent les femmes, et qui est, comme vous disiez, à grande échelle, puisque c'est 52% de la population, concerne en fait toute autre personne qui n'est pas un homme blanc. Hein. En gros, c'est à peu près ça. Donc,
un homme...
Six gens de 50 voilà. ans.
Et bourgeois.
Voilà, qui a de l'argent en plus. Et vous avez quitté le cinéma, vous en êtes où, et quelles ont été les réactions autour de vous quand vous avez, parce que vous l'avez dit, vous avez quand même monté, vous avez réussi à monter sur cette échelle, et puis maintenant, vous faites autre chose. Donc les réactions autour de vous dans votre milieu professionnel, ça a été quoi?
Il y a eu un petit peu de tout, un petit peu de tout. Alors beaucoup de gens étonnés, effectivement, comme je vous disais, avec toute cette précarité, au bout de quelques années quand même, on arrive à des postes importants, bien rémunérés, et c'est le moment qu'on a choisi pour tout arrêter. C'est quand même... Donc oui, autour de moi en tout cas, il y a eu quand même pas mal de questionnements, en disant vraiment est-ce que c'était le bon moment ou pas.
Bon, oui, pour moi, c'est le bon moment. Et d'autres personnes qui n'étaient pas du tout étonnées, je pense, voilà, de ma décision et de mon choix futur, mon choix professionnel. Je pense qu'on a, si on arrive à créer aujourd'hui cette structure avec Mathilda, c'est qu'on avait quand même voilà, beaucoup de questions jusqu'à présent et des questions qu'on a toujours partagées avec notre entourage professionnel. Donc je pense pas non plus voilà, que c'était une grande surprise qu'on se lance aujourd'hui dans cette aventure.
Voilà. Bah, c'est exactement ça. Moi, dans mon entourage, il y a eu un étonnement parce que j'ai des amis qui s'étaient aussi essayés à l'éco-responsabilité pour les tournages. Donc effectivement, c'est un autre combat, mais c'est un combat un petit peu parallèle. D'ailleurs, on en parle beaucoup avec des collègues qui sont dans ce milieu-là pour faire une offre en commun avec, pour les sociétés de production. Parce qu'il y a une volonté, ces deux axes qui sont très développés aujourd'hui dans toute société, mais en particulier dans l'audiovisuel et le cinéma. Et donc voilà, oui, c'est un, peut-être avec un élan d'effet de mode, mais on voyait aussi l'urgence. Non, je pense que ça a été assez évident pour mon entourage aussi. Ouais.
En tout cas, je crois que personne dans notre entourage perso ou pro, que ce soit toi ou moi, je pense que personne nous imaginait faire toute notre carrière jusqu'à notre retraite dans le milieu du cinéma.
Oui, c'est sûr. Ouais,
je pense qu'on a toujours voilà, parlé d'un changement un jour.
Et le changement, c'est maintenant.
Voilà un petit peu de politique pour terminer. Peut-être une dernière question avant de nous quitter. Peut-être raconter qu'en fait, c'est de la formation professionnelle que vous proposez. L'outil, il en passe par comment je fais dans ma profession pour pouvoir aider, pour pouvoir me agir si je suis témoin. Moi, ce que je trouve... quand même fou quelque part, c'est que ça doive en passer par une forme de quelque chose qui est formalisé en fait, et alors qu'on s'attendrait à ce que ça soit issu de lecture. Ouais, comme vous disiez, comme je suis humain, bah je sais, bon, je sais ce que c'est, je sais comment agir. Et est-ce que c'est quelque chose aussi que en face de vous vous avez, enfin les gens disent mais oui, enfin bon, ça va aller quoi, je vais y arriver.
Alors oui, ça on a beaucoup vu avant de vraiment se lancer. Bah le premier réflexe qu'on a eu, c'est de questionner un peu nos anciens directeurs, directrices de production. Et on a eu, alors pas que, on a eu vraiment de sons de cloche, mais on a eu quand même beaucoup de personnes qui nous ont répondu en tant que directeur de production. Non mais moi je sais, je n'ai pas besoin d'être formée, je n'ai pas besoin de former mes équipes. Quand il se passe quelque chose sur un de mes tournages, je suis toujours au courant et je sais réagir. Alors non, voilà, c'est une personne en plus pour le coup avec qui j'ai déjà travaillé et non, il n'a pas, cette personne par exemple n'avait pas les armes, et encore une fois, on jette pas la pierre à ces personnes-là. Après, il y a un moment, je pense qu'il faut aussi être, il faut reconnaître qu'on ne sait pas et du coup demander voilà de l'aide et des formations et cet apprentissage. Mais non, je pense qu'il y a des postes qui ne, voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ont besoin d'être aidés mais ils ne le savent pas. Donc ça, c'est aussi des fois compliqué un peu à voir et à vivre. C'est quand on sait qu'il y aurait besoin d'être formé, que la personne ne l'entend pas. Après, on n'est pas là pour forcer qui que ce soit à se former. Qui veut vient se former, bien sûr que non. Mais non, juste le bon sens ne suffit pas, malheureusement. Voilà, le bon sens ne suffit pas.
Oui, c'est vrai que ça paraîtrait être le béaba de savoir les règles de vie de tous les jours, mais on voit bien que c'est pas le cas et que, en tout cas, quand on parle de sexisme, de racisme, c'est beaucoup trop ancré et sous couvert de blagues et d'humour, mais en tout cas, c'est très très présent. Et il y a beaucoup de choses qui se font dans le milieu du travail qui ne devraient pas être de l'ordre du travail. Donc oui, ça doit passer par une formation, mais s'il faut passer par une brève sensibilisation parce que les gens ne veulent pas se former sur le volontariat, ben on fera des sensibilisations et on fera des interventions plus courtes. S'il faut faire des interventions plus courtes, on proposera le module qu'il faut. Mais en tout cas, c'est vraiment... oui, ça paraît dingue de parler de formation professionnelle, mais malheureusement, aujourd'hui, il faut passer par là et...
Non, mais c'est réaliste, enfin, l'un des outils pour combattre ce système, c'est de se former. Et vous-même, vous êtes formé comment ?
Eh bien, un peu comme la formation qu'on propose. En fait, on a été formé par un de nos concurrents Et
tu dans... vas le regretter.
Non, je pense pas, parce que plus il existera des formations sur ces sujets, mieux ça sera. Mmh. Et tout le monde, enfin, il y a beaucoup trop d'entreprises pour que nous, d'ailleurs. Mais on a été formés par Égal à Égal, Caroline Dehas. Voilà, donc qui est une très très bonne formation.
Caroline Dehas, l'autrice féministe.
Exactement, l'autrice féministe et aussi politisée NUPES. Je sais même pas si on dit NUP ou NUPES. NUPES.
On dit les deux.
Voilà, NUPES, c'est très joli. voilà, et donc nous on a suivi cette formation là, et puis en fait ça fait un an qu'on s'auto-forme à base de. Tout ce qu'on peut trouver sur Internet, des bouquins, énormément de choses comme ça.
Beaucoup de webinaires, de MOOC, il existe plein de choses, parce qu'on voilà, on parle de l'atelier Marcel et de venez vous former, vous sensibiliser. Et s'ils le font, c'est très bien. Mais on peut le faire aussi soi-même. Voilà.
Et peut-être pour terminer, une ressource, un livre, un webinaire, un MOOC que vous aimez particulièrement, qui vous avoue ouvert les yeux et qu'on peut conseiller à nos auditrices, auditeurs qui auraient envie de faire un premier pas.
Moi, je vais dire que vraiment la prise de conscience a été, je pense, en écoutant, en lisant et en suivant les webinaires de nous toutes.org.
On refait un petit pont avec Caroline Dehas parce que c'est elle qui est une des créatrices de Nous toutes. Et donc finalement, tout vient aussi d'elle. Hein, cet axe de réflexion aujourd'hui en France, c'est grâce aussi à elle. Moi aussi. Et on était tombés aussi beaucoup en lien avec des publications du collectif 50-50 aussi, ouais. Qui a fait le fameux livre blanc. Qui fait un constat sur tout le milieu du cinéma et de son retard par rapport à beaucoup, beaucoup de questions. Et ce livre est vraiment... Enfin, voilà, si vous avez l'occasion de le lire, cher auditeur, allez-y, parce que c'est vraiment passionnant et c'est très bien écrit. Voilà. Et si vous avez le courage, Légifrance, plongez-vous dedans. Voilà, nous, on a été aidés par une juriste, une super juriste.
Légifrance, c'est le site internet où on trouve tous les textes de loi.
Exactement.
Donc, pour vous, en tout cas, le code du travail et tout ce qui va réguler. Voilà. Et c'est en accès libre sur internet, mais effectivement, ça demande de s'y plonger.
Je crois que c'est un peu une juriste qui nous a bien aidés et qui nous a bien aidés à dépoussiérer tout ça. Mais effectivement, il faut avoir le courage de mettre la tête dedans. Mais pour l'avoir fait, on est très contente.
Oui.
Et on a appris plein de choses. Donc voilà.
Et si on veut apprendre maintenant, on appelle l'atelier Marcel.
Exactement. Et avant d'appeler l'atelier Marcel, petit conseil justement, on a sur le site internet, beaucoup, beaucoup, on a mis sur le site internet à donc www.ateliermarcel.fr. On a les définitions des violences avec tous les articles actualisés à chaque fois en lien, avec une petite explication pour chaque article de loi donc sur les violences. Et on a aussi un onglet besoin d'aide. Où on préconise les premiers gestes, enfin les premiers gestes, on n'est pas dans les gestes de survie, mais les premières un peu, oui, peut-être presque, mais les premières recommandations quand on est victime, témoin, référent ou employeur. Voilà.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Mathilda, merci Anthony. Merci pour cette ressource. Donc, on rappelle www.ateliermarcel.fr.
Marcel
Dezelleux. Marcel Dezelleux au féminin, bien sûr. Et puis, merci d'être intervenu et de nous avoir raconté vos actions. Une interview proposée par Myriam Hassoun et réalisée par Léa Grange. C'était une émission enregistrée pour Zai Zai en juin 2023. Dans le cadre du festival Représente, le festival féministe d'Angoulême.